Électrochoc, le podcast des électrons libres.
La machine dont le monde dépend est européenne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une véritable épopée technologique, une entreprise qui fabrique l'outil le plus indispensable de notre époque. Sans cette machine, il n'y a tout simplement pas d'intelligence artificielle, pas de smartphone de dernière génération, et pas même les voitures modernes que nous conduisons tous les jours.
Exactement, Max. Nous parlons d'un géant néerlandais, une entreprise qui détient aujourd'hui le monopole absolu sur la fabrication des puces les plus avancées au monde. Quand on regarde leur domination actuelle, on pourrait croire que ce succès était tracé à devant. Mais la réalité est digne d'un grand roman d'aventure. Ils ont frôlé la disparition totale à plusieurs reprises.
Prenez une grande inspiration. Car nous retournons en 1984. À l'époque, le géant de l'électronique Philips veut se débarrasser d'un projet de lithographie. C'est un gouffre financier et le projet semble complètement au point mort. Il crée donc une co-entreprise pour s'en détacher. Au début, c'est la catastrophe absolue. Ils n'ont pas de clients, aucune réputation et leur technologie balbutie.
C'est le moins de le dire, Max. Leur toute première machine souffrait de fuite d'huile à répétition. Imaginez la scène lors d'une grande conférence industrielle de l'époque. Un dirigeant du secteur s'approche des fondateurs et leur lance une phrase terrible, une phrase qui aurait pu les achever sur place. Il leur dit que la course est déjà remportée et qu'il n'y a aucune place pour eux sur ce marché.
Et 4 ans plus tard, les prédictions de ce dirigeant semblent se réaliser. L'entreprise est au bord de la liquidation. Leur partenaire principal s'est retiré et Philips envisage très sérieusement de fermer définitivement les portes. Il a fallu l'intervention in extremis d'un seul membre du conseil d'administration pour les sauver. Son argument était visionnaire. Il a plaidé que l'Europe ne pouvait dépendre intégralement de l'Asie pour fabriquer ses puces électroniques.
Ce sursis inespéré les oblige à repenser toute leur stratégie. Pour survivre, ils font un choix qui scandalise littéralement toute l'industrie. À l'époque, les géants japonais comme Nikon et Canon dominent le marché en fabriquant tout eux-mêmes, de l'optique au laser. Notre entreprise européenne décide de faire exactement l'inverse. Elle renonce à l'intégration verticale et choisit de tout sous-traiter. Elle devient simple assembleur.
Des ingénieurs allemands avaient même prévenu le PDG que c'était une folie, qu'ils allaient perdre tout contrôle sur leur technologie. Mais ils n'avaient ni les capitaux ni le temps de tout faire. Ils ont donc misé sur une architecture modulaire. Et c'est là que le génie opère. Si une machine tombe en panne dans une usine, on remplace le module défaillant en quelques heures. Chez les concurrents japonais, il fallait réparer la machine pièce par pièce.
Cette stratégie audacieuse finit par payer. Au début des années 90, un géant américain de l'informatique, exaspéré par les pannes de ses machines japonaises, passe sa première commande. C'est un tournant décisif. Mais le véritable suspense, le grand saut dans l'inconnu, arrive à la fin de la décennie.
Absolument. L'industrie entière se cogne à un mur physique. Pour rendre les ordinateurs plus puissants, il faut miniaturiser les puces. Mais la lumière ultraviolette utilisée pour graver les circuits est devenue trop grossière. Les concurrents investissent des centaines de millions dans de nouvelles longueurs d'onde classiques et échouent. Notre champion européen, lui, fait un pari radical, passer à l'extrême ultraviolet.
L'extrême ultraviolet, c'est une lumière si intense et si courte qu'elle est absorbée par presque tous les matériaux connus, et même par l'air. La majorité des experts de l'époque jugeaient cette technologie totalement irréalisable. C'était de la science-fiction. Et le développement engloutit des sommes colossales. Les financements s'épuisent rapidement.
Pour sauver le projet, la direction invente une telle combinaison financière que personne ne s'y attendait. Elle décide de vendre 23% de leur capital à leurs propres clients. Les plus grands fabricants mondiaux de puces acceptent de s'engager et injectent des milliards d'euros. Mais l'argent ne résout pas les lois de la physique. Il y a un verrou technologique critique, la source lumineuse.
Le fournisseur américain de cette source lumineuse n'arrive pas à augmenter la puissance de son laser. Le directeur technique européen insiste alors pour racheter ce fournisseur. Le PDG est sceptique. Il demande quelles sont leurs chances de faire fonctionner cette technologie sur une échelle de 1 à 10. La réponse tombe entre 6 et 8. Le PDG hausse les épaules et valide un rachat à 2 milliards d'euros.
Nous sommes maintenant en janvier 2006. C'est l'heure de vérité. Un ingénieur passe son samedi à examiner le tout premier disque de silicium exposé par le prototype de cette machine révolutionnaire. Après 15 ans de développement acharné, il espère découvrir les premiers transistors parfaits. Et là, c'est la stupeur.
Il voit des bananes. Une lumière la plus puissante jamais produite dans un procédé industriel, un plasma d'étain porté à près de 220 000 degrés, n'a pas dessiné les motifs géométriques attendus. Sur le silicium apparaissent des formes courbées et déformées qui ressemblent à des fruits tropicaux.
L'histoire aurait pu s'arrêter net ce jour-là, mais ils ont refusé de renoncer. Ils ont corrigé le tir, perfectionné la machine, et aujourd'hui, cette entreprise vaut des centaines de milliards d'euros. C'est devenu un réseau industriel européen d'une densité stupéfiante. Le cœur optique est fabriqué en Allemagne, tout comme le laser industriel pulsé le plus puissant au monde.
C'est une véritable cathédrale technologique. 5000 fournisseurs européens gravitent autour de ce projet. Un ingénieur a même confié à un concurrent asiatique que leurs machines contiennent des décennies, voire des siècles de connaissances accumulées. Avoir les plans ne suffit absolument pas pour les reproduire.
Et ce succès éclatant attire inévitablement les tensions géopolitiques. Washington surveille cette technologie de très près. En absorbant des entreprises américaines par le passé pour récupérer des brevets cruciaux, notre champion européen s'est retrouvé au cœur d'une tempête politique. Des cassettes vidéo ont même été envoyées au bureau Oval pour dénoncer le fait qu'une entreprise européenne s'empare de recherches financées par les contribuables américains.
Aujourd'hui encore, les États-Unis utilisent des règles strictes pour dicter à qui ces machines peuvent être vendues. Dès qu'un produit contient une infime fraction de technologie américaine, Washington peut imposer son veto. Et comme la source laser vient toujours de Californie, cela donne un levier de pression énorme pour bloquer les exportations vers certaines puissances rivales.
De son côté, l'Asie investit des dizaines de milliards pour combler son retard et tenter de copier cette merveille technologique. La bataille est féroce sur tous les fronts.
Mais nous avons toutes les raisons d'être profondément optimistes. Cette entreprise a survécu à des fuites d'huile, à l'hostilité de son propre fondateur, aux doutes des experts mondiaux et même à des bananes gravées dans le silicium. Elle a prouvé qu'un champion technologique mondial absolu peut être européen.
C'est le triomphe de la persévérance. À chaque étape, quelqu'un a refusé de baisser les bras. Aujourd'hui, ces ingénieurs travaillent déjà sur les générations suivantes, repoussant des frontières physiques que la plupart des scientifiques jugent infranchissables. L'innovation européenne est plus vivante que jamais, et elle continue d'écrire l'avenir de notre monde.
Soutenez les électrons libres, abonnez-vous sur lel.media.